Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Kieran Gessel, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Jean Frédérix. La dramatisation autour du vote de confiance à l'Assemblée nationale cet après-midi aura sans doute été excessive. Le gouvernement Valls est plus solide et plus stable qu'on ne croit. Celui-ci ne devrait pas vaciller à l'issue du discours de politique générale et du vote, donc la majorité restera majoritaire. En revanche, c'est bien un numéro d'équilibriste que s'est une nouvelle fois livré le Premier ministre pour justifier les orientations de sa politique économique. La France fera comme promis 50 milliards d'économies d'ici 2017, tout en baissant la pression fiscale l'an prochain pour 6 millions de ménages. Elle ne demandera aucune facilité à Bruxelles pour son déficit budgétaire, mais utilisera, a dit Manuel Valls, toutes les flexibilités du pacte de stabilité et de croissance. Du sérieux budgétaire dans la souplesse, voilà plus ou moins la ligne de crête sur laquelle le chef du gouvernement essaie de se maintenir. Alors comment qualifier cette politique ? En l'absence de réformes structurelles de fond et de baisse des salaires, peut-on déjà parler d'austérité ou bien ce terme doit-il être réservé à d'autres pays, ceux du sud de l'Europe, soumis à des mesures bien plus radicales ? Et si ce n'est pas de l'austérité, est-ce de la rigueur ? Bien que ce mot semble avoir été banni du vocabulaire de la gauche depuis le tournant du même nom, il y a 30 ans. En mars 2013, tout juste nommé ministre du budget, Bernard Cazeneuve proposait ce distinguo. Si l'austérité est une faute, la rigueur est une vertu. Alors la rigueur nous protège-t-elle de l'austérité ? C'est notre sujet du jour. Et trois économistes pour en discuter, pour essayer de clarifier un certain nombre de notions ce soir. Cécile Philippe, bonsoir.
Bonsoir, oui.
Vous êtes la directrice générale de l'Institut Molinari, qui a été fondé en 2003. C'est un think tank libéral. C'est comme ça que l'on résume en général la présentation de l'Institut Molinari. Dany Lang, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence en économie à l'Université Paris 13. Vous êtes membre des économistes atterrés. Il y a donc quelques probabilités pour que vos analyses ne soient pas systématiquement convergentes ce soir, voilà, pour utiliser
non, mais justement, le débat, c'est
c'était
la démocratie.
Ça, l'objectif, hein.
C'est l'objectif.
Quelle sera la position de notre troisième invité ? Nous allons le découvrir pendant les prochaines 40 minutes. Il s'agit d'Alexandre Delegue. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous vous trouvez en duplex des studios de France Bleu à Lille. Vous êtes professeur à l'université Lille 1 et vous êtes l'auteur du blog « L'éconoclaste, l'économie pour les nuls ». Et les autres. Alors je rappelle le titre de notre problématique du soir. La rigueur nous protège-t-elle de l'austérité ? Il faut d'abord commencer par faire un effort de définition. Mais je voudrais peut-être juste commencer, Dany Lang, parce que vous m'avez dit, juste avant d'entrer en studio, vous m'avez dit ce titre-là, moi ça m'a fait penser à Coluche.
Ça m'a fait penser à un sketch de Coluche où il se pose une question fondamentale sur la lessive. Il dit, voilà, le nouvel homo lave plus blanc que blanc. Moi, blanc, je savais ce que c'est, mais plus blanc que blanc, je ne sais pas ce que c'est.
Donc ça veut dire quoi ? La rigueur et l'austérité, c'est la même chose ?
Je pense que, et on peut ajouter à ça le sérieux budgétaire, c'est-à-dire que le sérieux budgétaire, moi au sérieux budgétaire, je préfère le sérieux lexical, c'est-à-dire une politique de rigueur, une politique d'austérité, ou ce qu'on appelle maintenant le sérieux budgétaire pour impacter le tout, ça consiste à diminuer les dépenses publiques et dans le même mouvement augmenter les impôts, c'est très exactement la politique actuelle avec une baisse quand même de 50 milliards des dépenses publiques, même si l'intensité n'est pas la même que dans un certain nombre de pays du Sud, cette politique est clairement pour moi, enfin ces termes sont clairement pour moi équivalents.
Et bien voilà, alors là-dessus, on va être d'accord. C'est-à-dire que rigueur, sérieux budgétaire, austérité, c'est finalement des termes qui, je pense, recouvrent en fait la même réalité. Mais il faut savoir ce qu'on a derrière cette réalité. En fait, derrière la réalité de l'austérité, il y a cette idée qu'il faudrait revenir effectivement à un équilibre budgétaire. Équilibre budgétaire, il faut savoir qu'il n'a pas été atteint en France depuis 1974. Équilibre budgétaire qui se manifeste par des déficits, hein, le déficit budgétaire tous les ans. Et effectivement, on parle aujourd'hui de rigueur budgétaire, enfin, on parle aujourd'hui de revenir à l'équilibre parce qu'effectivement, on est sorti de ces fameux critères de Maastricht qui sont 3% de déficit par an. Mais pour revenir à l'équilibre budgétaire, il y a plusieurs méthodes. Il n'y a pas juste une seule méthode. Il y a effectivement soit augmenter les impôts et donc obtenir plus de rentrées fiscales et effectivement on peut réduire les déficits, soit baisser les dépenses publiques, soit même faire les deux.
Alors on va aller justement assez rapidement sur ces méthodes, mais je voudrais avoir également l'avis d'Alexandre Delecq sur cette question de terminologie. L'austérité, la rigueur, est-ce que d'abord ce sont des termes de la science économique, ces termes-là, ou ce sont avant tout des propos qui servent le discours politique ?
C'est des propos qui servent le discours politique. En France, comme le disait Cécile Philippe, on a des déficits depuis assez longtemps. On se plaint depuis assez longtemps aussi de cette chose tout en les maintenant. Et donc on invente des concepts. Dans les années 80, c'était la rigueur. Plus récemment, c'était Mme Christine Lagarde qui avait inventé le très intéressant relance, le mélange de rigueur et de relance, qui était aussi un peu l'alliance de la carpe et du lapin, où on relançait l'économie tout en faisant de la rigueur budgétaire. Maintenant, c'est l'austérité. Bref, tout cela est quand même un petit peu de la communication politique. Je suis tout à fait d'accord avec les deux autres invités sur le fait que ce qui compte, c'est la réalité qui est derrière.
Oui. Alors moi qui ne suis pas économiste, quand on me parle de rigueur, j'ai plutôt l'impression que c'est un terme peut-être pas positif, mais enfin en tout cas qui induit une approche vertueuse d'une politique économique. Quand on parle d'austérité, il y a plutôt l'aspect punition. Et il me semble que c'est aussi la façon, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que finalement aujourd'hui on a cette approche-là de ces deux termes, et il me semble que c'est comme ça que le discours politique s'est emparé du mot austérité et du mot rigueur. Je voudrais simplement vous faire écouter la façon dont deux premiers ministres, un en exercice, Emmanuel Valls, un qui l'a été, François Fillon, qui avait des politiques qui n'étaient peut-être pas si éloignées que ça, en tout cas qui avait pour objectif la maîtrise de la dépense, et écouter ce qu'ils en disent.
Je ne qualifie pas de politique de rigueur l'ensemble de notre politique économique et financière. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que ce que nous faisons en ce moment, c'est justement pour éviter d'être conduits à cette politique. Mais oui, nous conduisons une politique de rigueur s'agissant de la dépense. Et je n'ai pas peur d'utiliser ce mot, je ne le regrette pas, je ne le retire pas, et je le répéterai à chaque fois que j'en aurai l'occasion.
Nous maintenons ce cap qui est celui du sérieux budgétaire, qui est du refus de l'austérité, par la priorité que nous donnons à l'école, à la sécurité, à la justice, à la recherche et à l'université. Nous refusons donc l'austérité, mais nous faisons des choix sérieux pour préparer l'avenir.
Bon, Cécile Philippe, ça serait peut-être ça la différence. La rigueur, c'est une politique que l'on peut assumer. L'austérité, on ne peut pas.
Je suis juste pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que je trouve que vraiment là, on est dans la langue de bois quand on parle de rigueur ou d'austérité. C'est simplement qu'on essaye de faire passer la pilule, mais sans véritablement dire ce qu'on est en train de faire. Parce qu'en fait, quand j'entends Manuel Valls parler d'austérité, il dit on va arrêter l'austérité. Mais de quelle austérité parle-t-on ? Et j'ai envie de dire, en France, depuis 2008, l'austérité dont on parle, c'est avant tout celle de l'augmentation de la fiscalité. Vous disiez tout à l'heure qu'on baisse les dépenses publiques. C'est faux. Les dépenses publiques entre 2012 et 2013 ont encore augmenté de 2%. Elles vont encore augmenter cette année. Ce à quoi on assiste, c'est à un ralentissement de l'augmentation des dépenses publiques. Donc en fait, si on veut faire le bilan aujourd'hui de l'austérité, l'austérité a avant tout été fiscale et a créé effectivement en France ce ras-le-bol total de la part de la population française qui effectivement voit son pouvoir d'achat diminuer. Donc c'est de celle-là dont on parle. Et on ne parle pas encore de celle de la baisse des dépenses publiques.
Alors peut-être que l'Institut Molinari va à nouveau être d'accord avec un des membres des économistes atterrés sur le fait que ces mots-là, revendiquer la rigueur pour ne pas avoir à revendiquer l'austérité, c'est pour faire passer la pilule, Danny Lang ?
Je ne sais pas, moi je ne suis pas politiste, je suis économiste, je constate que c'est la même chose. Pour moi ça relève assez de la casuistique ces débats. Mais sur le fond, évidemment je suis en désaccord avec vous, je pense que ces politiques nous mènent dans le mur, qu'elles aggravent la récession.
Pas encore exprimé là-dessus. Hein.
D'accord. je ne suis pas d'accord avec vous. Et puis en plus, on utilise un indicateur sur les dépenses publiques, le rapport entre les dépenses publiques et le PIB. On fait diminuer le PIB par des politiques d'austérité, on n'a pas de croissance. Et donc après, on se plaint que le rapport entre les dépenses publiques et le PIB augmente. Donc si on fait diminuer le PIB, le rapport, même si les dépenses publiques restent inchangées, on va forcément faire augmenter ce rapport.
Alors même si ce ne sont que des mots et que ces mots ne vous conviennent pas tout à fait, on est bien obligé de les utiliser pour essayer d'expliquer dans quelle situation on est aujourd'hui. Vous disiez, Cécile Philippe, mais l'austérité, elle est où? Elle n'est pas là aujourd'hui.
Exact. Et si, en fait...
elle est ressentie.
Exactement. Et c'est pour ça que là, je ne comprends pas très bien notre désaccord à ce stade. Je pense qu'il va venir, là, le désaccord, parce que je vais expliciter mon point de vue. C'est qu'effectivement, je pense que l'austérité en France... et dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, elle a avant tout été fiscale. Et elle est catastrophique. Parce que la France, c'est déjà un pays hyper fiscalisé. Et si on pense comme moi que le souci en France, le vrai problème et le vrai défi, c'est celui d'avoir eu d'avoir une puissance publique qui prend trop de place, qui occupe, j'ai envie de dire, beaucoup trop d'espace dans le monde économique, culturel et social, augmenter les impôts, c'est encore augmenter le problème de la France. Et c'est pour ça que, effectivement, je pense qu'il faut accentuer... La question, elle est avant tout de se poser celle des dépenses publiques, mais beaucoup plus précisément se poser la question de la position et de la place de l'État dans nos économies.
Alors restons quand même un instant sur la fiscalité. Mmh. Alexandre Delegue et Dany Lang, la politique fiscale menée par le gouvernement, c'est une politique d'austérité. Alexandre Delegue ?
Je pense qu'on pourrait l'appeler la politique de Saint-Augustin. C'est Saint-Augustin qui priait en demandant à Dieu de lui donner la vertu, mais pas tout de suite. Et on est un petit peu là dans cette situation. On a d'un côté des finances publiques qui, sur le long terme, étant donné ce que va être la croissance française, l'inflation, qui sont les éléments principaux, va nécessiter probablement de faire des choix assez difficiles. C'est-à-dire qu'il ne va pas être possible de maintenir la croissance de la dépense publique comme elle s'est passée auparavant, puisque c'était fondé sur une croissance type 30 glorieuse et on ne l'a pas. Le problème, c'est de savoir... quand et de quelle façon est-ce qu'on se place dans un cadre qui n'est pas explosif, c'est-à-dire une situation dans laquelle la dette publique n'est pas explosive. Et là, la question est essentiellement celle du contexte. Et là où je rejoindrai la question, c'est est-ce que là, on a raison de faire ça maintenant de cette façon-là? Et j'aurais tendance à dire que le gouvernement, en fait, vu les contraintes qu'il rencontre, ne s'en sort pas si mal, même s'il y aurait probablement des choses qui pourraient être mieux faites.
Dany Lang.
Je suis évidemment en désaccord avec ce qui a été dit. Plus on pratique cette politique d'austérité, plus l'activité se dégrade et moins on arrivera à atteindre cet objectif. Nous l'avions dit dès le départ, nous l'avions dit pour la Grèce, plus on diminue les dépenses publiques, plus on augmente les impôts. Et d'ailleurs, il faudrait savoir de quels impôts on parle.
Il faudrait savoir de quelle politique d'austérité aussi vous parlez, vous, Dany Lang. C'est-à-dire, quand vous dites plus on poursuit cette politique d'austérité, mais est-ce que c'est la même politique dont vient de nous parler Cécile Philippe, qui était essentiellement une politique fiscale, ou bien est-ce que vous placez le curseur ailleurs?
Non, pour moi, une politique d'austérité, c'est une politique qui consiste simultanément à diminuer les dépenses publiques et à augmenter les impôts. Alors, on peut
donc
discuter de quels impôts il s'agit. Je serais en désaccord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais simplement, si le problème, c'est la dette... plus on mène cette politique et plus l'objectif va s'éloigner. C'est ce qu'on constate. Partout dans les pays où ces politiques ont été menées, le rapport entre la dette publique et le PIB ne s'est pas arrangé, bien au contraire. Pourquoi? Parce que c'est une politique qui déprime l'activité. Comme c'est une politique qui déprime l'activité, vous avez donc moins de rentrées fiscales. Et comme vous avez moins de rentrées fiscales, à chaque fois, on nous a fait le coup de... on a augmenté les impôts, on s'attendait à 15 milliards et du coup, on n'a que 7 milliards. Mais oui, forcément, ça a déprimé l'activité.
Donc si je résume provisoirement vos positions à tous les trois, Cécile Philippe, finalement, ce que vous dites, c'est que le gouvernement ne va pas assez loin. Vous, Dany Lang, vous dites qu'il va trop loin. Quant à Alexandre Delegue, eh bien que le gouvernement est un petit peu en équilibre, comme je le disais en début d'émission, qu'il essaie peut-être de ménager la chèvre et le chou. Comment ça se fait qu'on puisse avoir, en tout cas, autant de divergences entre économistes aujourd'hui sur ces questions-là? Ça, c'est quelque chose, je pense, je suis même à peu près persuadé, que le grand public a du mal à comprendre qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord entre économistes sur les bienfaits ou pas d'une politique, par exemple, de réduction de la dépense.
Oui. Alors, moi, je précise, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on devrait en faire plus. Je pense qu'on devrait en faire beaucoup moins en matière d'austérité fiscale et beaucoup plus en matière d'austérité de dépenses publiques, comprise comme une redéfinition des missions de l'État. Alors pourquoi est-ce qu'on a des visions économiques différentes? Mais parce qu'on a des visions du fonctionnement de la société et de nos institutions qui sont complètement différentes. Parce que, par exemple, moi je pense que la croissance, elle n'est pas tirée par la dette. Je pense que la croissance, elle est tirée avant tout par l'initiative individuelle, par les innovations, par les gains de productivité, par l'épargne en particulier. Voilà ce qui va permettre à une économie de fonctionner. Et surtout, je crois énormément aux échanges volontaires dans une société civile étendue, c'est-à-dire qui comprend l'économie de marché, mais aussi le rôle donné aux mutuelles, aux coopératives, à toutes ces organisations qui sont fondées sur l'échange volontaire et qui permettent effectivement de créer, je pense, une croissance durable. Et effectivement, on a des modèles en tête de fonctionnement de société qui sont différents en fonction notamment des écoles d'économie auxquelles on peut appartenir, des visions qu'on a du fonctionnement de la société.
Dany Long.
Oui, il y a plusieurs cadres théoriques en économie, des cadres théoriques qui sont concurrents. Moi, je n'ai rien contre l'initiative privée, je n'ai rien contre la dépense privée. Alors, on nous dit souvent la dépense publique, c'est 57% du PIB. Quand on essaie d'évaluer la dépense publique, la dépense privée, c'est 200% du PIB. Je ne veux pas être collé au plafond, je ne dis pas que c'est mal. Oui, on a des cadres théoriques différents. Et puis, dans le cadre théorique dans lequel je travaille, plus on diminue la dépense publique et plus on diminue l'activité. Mais je pense qu'on est de plus en plus rejoints. On a été les premiers à le dire. Et puis, ces derniers mois, on s'est rendu compte que finalement, le Fonds monétaire international avait reconnu ce qu'on disait depuis longtemps, c'est-à-dire que la baisse de la dépense publique provoque une baisse du PIB plus importante que la baisse. Quand vous baissez la dépense publique,
il y a un effet récessif
supérieur à 1.
Si tous les économistes, paraît-il, au FMI, ne sont pas forcément d'accord.
Ils sont comme forcément obligés de reconnaître que l'austérité expansionniste, parce que c'était pas qu'un des propos de Madame Lagarde, c'est certains économistes qui ont théorisé ça, que l'austérité expansionniste qu'on nous avait vendue en 2009 ne fonctionne pas. Quand vous baissez la dépense publique de 1, vous déprimez l'activité en moyenne de 1,3, 1,6 aux États-Unis. Ça dépend des pays, ça dépend des secteurs. Si vous touchez à la culture, ce sera beaucoup plus fort. Si vous touchez aux infrastructures, aux bâtiments, ce sera beaucoup plus fort. Il y a des secteurs où c'est plus faible.
Oui, mais là encore, on confond, et c'est pour ça que ce thème est très intéressant, on confond encore les thèmes qu'on utilise. Ce qui est critiqué avant tout, c'est l'austérité fiscale qui a été déployée dans la plupart des pays de l'Union européenne, parce que c'était le truc le plus facile à faire.
C'est aussi la baisse généralisée des salaires quand même dans certains pays.
Alors ça, c'est les débuts, effectivement. Quelques années plus tard, on a commencé à avoir des débuts de réformes. Mais vous voyez, on peut dire qu'elles sont un peu faites dans un contexte où faites à tort et à travers, j'ai envie de dire. Et contrairement à ce qui a été dit, c'est que si on se tourne vers les grandes expériences de réformes étrangères, celles en tout cas que j'ai analysées, qui sont la Nouvelle-Zélande, le Canada, la Lettonie, très récemment, la Suède, bien sûr, j'allais oublier la Suède dans les années 90, c'est exactement l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que les réformes ont véritablement porté sur une redéfinition des missions de l'État, en considérant qu'il y avait ce que l'État pouvait faire et qu'il y avait ce qui relevait de l'initiative individuelle. Et c'est ce débat-là et le consensus qui s'est opéré autour de la sphère privée comprise de sa façon la plus large possible et la sphère publique, eh bien, il fallait les redéfinir. Et c'est dans ces contextes-là qu'effectivement, pas à court terme, parce qu'à court terme, il y a toujours des ajustements effectivement qui peuvent entraîner des effets récessifs. Mais à long terme, ils ont tous renoué avec l'équilibre budgétaire et avec la croissance.
Alexandre Delegue.
Alors, je pense que ce qui explique la différence que vous avez présentée, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels les économistes peuvent être d'accord. Tous les économistes connaissent certains mécanismes. Et évidemment, il peut y avoir des désaccords scientifiques, c'est une chose. Mais il y a aussi, les économistes sont des gens et ils ont des opinions politiques. Et là, je pense qu'on mélange avec cette histoire de débat sur l'austérité, etc., un débat qui est un débat conjoncturel, qui est on a eu une crise, résultat, eh bien, les recettes fiscales n'ont pas été au rendez-vous, on est dans une situation plus difficile que ce qu'on croyait, comment on fait? Ça, c'est le débat de l'austérité. Et un autre débat qui est l'importance que doit avoir l'État dans l'économie. Et de ce côté-là, je pense que Cécile Philippe sera d'accord avec moi pour dire que, de son point de vue, l'État est trop important dans l'économie.
Absolument.
Résultat, la question de la crise, le nouveau contexte, un petit peu comme dans cette histoire de théorie du choc, est l'occasion de dire, ah bah tiens, ça va être l'occasion de réduire la dépense publique parce qu'on fait des choses. De l'autre côté, on va avoir l'idée que le poids de l'État dans l'économie devrait être plus grand, que l'État devrait avoir un rôle important, qu'il y a plus de redistribution qui est nécessaire, que les inégalités sont un problème et qu'on n'en fait pas assez contre elles. Et dans ce cas-là, on va de la même façon dire que la crise doit être l'occasion d'en faire plus de ce côté de la redistribution. Mais pour moi, ça, c'est mélanger un débat qui est tout à fait honorable, tout à fait important, avec une autre question qui est celle de que fait-on à poids de l'État donné dans l'économie ? Comment fait-on pour passer la crise ? Et ça, c'est la vraie question importante qui me paraît distincte et qu'on ne devrait pas mélanger avec celle de quelle est l'importance que devrait avoir l'État dans l'économie.
Oui, mais alors là, moi, j'approuve description des positions, mais là où je m'inscris en faux, c'est que je pense que la crise aujourd'hui, de la même façon, enfin, donc la crise de 2008 qui est suite à la crise des subprimes, qui elle-même est suite à la crise de la bulle Internet et qui fait suite à toute une série de ce qu'on appelle des cycles économiques depuis pratiquement les années 70, c'est pas le fruit du hasard. Et je pense que c'est aussi le résultat d'une croissance, j'ai envie de dire sans interruption, de la sphère étatique dans la plupart des pays développés. Et ce n'est pas, juste une question d'opinion, c'est aussi une question de description. Et c'est vrai particulièrement pour le cas de la France, c'est vrai pour tous les pays qui ont dû passer par des réformes de majeures, comme ceux que j'ai cités, la Suède, le Canada, la Nouvelle-Zélande, etc.
Dany Lang.
Alors, ce qui est assez intéressant, il y a beaucoup de points là, mais dans les exemples que vous citez, particulièrement l'exemple canadien, l'exemple suédois, les politiques ont été menées non pas par tous les pays en même temps, mais par un nombre limité de pays. La Suède a fait ça toute seule, elle a diminué ses dépenses publiques et en même temps, elle s'est débrouillée pour qu'il y ait une dépréciation de son taux de change. Le Canada, en même temps qu'il a mené sa politique d'austérité, a mené une politique de dépréciation de son taux de change.
Donc, c'est la
chance qu'ils ont eue, effectivement. Non,
France ne peut pas le faire. Et surtout, ce genre de politique, moi, je ne le recommanderai jamais, franchement, parce que je pense que ça a des effets qui ne sont pas souhaitables. Ça augmente les inégalités, ça cause des problèmes de répartition. Mais indépendamment de ça, une politique d'austérité peut fonctionner en termes de croissance et d'emploi. Uniquement si tous les pays ne sont pas en train de faire la même chose en même temps.
Peut y avoir de bonnes politiques d'austérité, c'est ce que vous nous dites, Dany Lang.
C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que ça peut fonctionner sur la croissance et l'emploi si un nombre limité de pays fait ça en même temps.
Bah, l'Allemagne l'a fait, par exemple, non ?
Et au détriment des autres pays. C'est-à-dire vous passez le problème à vos voisins.
Mais oui, mais on peut tout à fait dire que non. C'est parce que les Français n'ont pas... Par exemple, si on parle du cas de la France, c'est que la France aurait peut-être dû songer aussi à se oublier son marché du travail, à repenser, son modèle de protection sociale. C'est peut-être, vous voyez, on ne peut pas dire que l'Allemagne l'a fait au détriment des autres. C'est simplement que la France ne l'a pas fait. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure ?
Heureusement que la France ne l'a pas fait en même temps, parce que sinon on serait dans une situation bien pire que la situation actuelle.
Pas du tout évident. On est en France avec un
marché du travail. Je suis en désaccord total. Et juste, si je puis répondre aussi à ce qu'a dit l'autre intervenant à Lille.
Alexandre Delegue.
Je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision des choses. Une politique, par exemple, je serais le premier à recommander une politique d'austérité si aujourd'hui le taux de chômage était de 20%, le taux d'inflation était de 15%. Et je pense qu'on ne peut pas déconnecter la politique à mener de la conjoncture. La politique doit être contracyclique, c'est-à-dire quand ça va trop bien, il faut calmer l'économie. Et quand ça va mal, comme c'est le moment, il faut lui donner du grain à moudre, pour reprendre le nom de votre émission. Et puis, sur les dépenses de l'État, quand on dit qu'il faut diminuer les dépenses de l'État, regardons en quoi l'État dépense. En dépenses de fonctionnement, on est à peu près au même niveau que l'Allemagne et les autres pays européens. Qu'est-ce qui fait la différence en France ? C'est le fait qu'on dépense en prestations sociales, c'est 26% du PIB, c'est-à-dire les retraites, les allocations familiales, le chômage, c'est les remboursements de médicaments, c'est les consultations, c'est les gardes d'enfants, c'est les services publics non marchands, c'est-à-dire l'éducation, les soins. Donc si on veut réduire le rôle de l'État, ça veut dire tout simplement que les ménages vont peut-être payer moins d'impôts, ils vont peut-être payer moins de cotisations sociales, mais d'un autre côté, ils devront payer ça dans le privé.
Eh bien oui, mais on évitera quoi ? On évitera un phénomène qui est en train de devenir extrêmement grave en France depuis 1996 avec la création de l'ONDAM et l'objectif national des dépenses publiques. Ça s'appelle le rationnement qui ne dit pas son nom, mais qui, au fur et à mesure qu'effectivement les déficits s'accumulent, parce que, ok, le vrai problème en France, c'est celui de la protection sociale. Mais c'était aussi le problème de l'Allemagne, c'était aussi le problème de la Suède. C'est finalement un problème qui est rencontré dans de très nombreux pays. Donc, on n'est pas une exception de ce point de vue-là. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que, qu'il s'agisse de la branche retraite, de la branche maladie, de la branche accident du travail ou de la branche famille, elles sont toutes en déficit. Maladie depuis 1989, les retraites depuis 2005, les autres depuis 2009. Enfin, bref, elles sont donc en déficit, c'est-à-dire qu'on dépense de façon trop importante. Et ce faisant, on a un système de santé qui est en train de s'étatiser, qui est en train de créer des files d'attente, comme le système de santé canadien, qui effectivement rationne par les files d'attente. Et ben, je ne dis pas que c'est un système beaucoup plus performant qu'un système où on paierait directement.
Je suis en désaccord complet avec ça. Aux États-Unis, ils dépensent 17,9% de leur PIB en santé dans des assurances privées qui passent leur temps à essayer de ne pas les rembourser. Et en France, on dépense 11,7%.
Donc, oui, beaucoup plus que dans les autres pays de l'Union européenne. Ouais.
Je voudrais qu'on revienne à ce que vous avez esquissé déjà, c'est-à-dire l'autonomie de la politique économique française par rapport à ses partenaires, c'est-à-dire que peut faire la France dans son environnement. J'en profite également de cette reprise de parole pour vous signaler que, comme prévu, le gouvernement Valls a obtenu la confiance de l'Assemblée nationale par 269 voix. Il en avait eu 306 en avril, donc il y a quand même eu pas mal de déperditions. Donc apparemment, les députés français sont majoritairement en faveur de la politique économique qui est menée. Bon, c'est bien que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je reviens donc à cette question de l'autonomie de la politique économique. Alexandre Delaigue, est-ce que la France aujourd'hui, étant donné son environnement proche, c'est-à-dire un environnement européen, aurait davantage intérêt à se démarquer de ce que font les autres ou bien à faire la même chose?
Je pense que ça ne changerait pas grand-chose. C'est-à-dire que si le gouvernement décidait d'avoir un peu plus de déficit public, quelle que soit la façon, soit par les dépenses, soit par les impôts, ce qui va compter, c'est le contexte. Je trouve qu'on oublie vraiment beaucoup le contexte européen dans toute cette situation. Et le contexte européen, il est déterminé d'un côté par la politique monétaire de la BCE et de l'autre côté, par l'ensemble des politiques budgétaires des États européens.
Il est quoi d'ailleurs ce contexte aujourd'hui? Est-ce qu'on est encore dans la crise de la zone euro? On ne sait plus très bien si on y est ou si on n'y est plus.
Il est globalement austéritaire. Du point de vue des politiques budgétaires, elles sont globalement austéritaires à hauteur de 0,3% du PIB européen. Ce qui, enfin, vous pouvez dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, mais enfin globalement, elles sont plutôt du côté de l'austérité. C'est-à-dire le solde budgétaire est de plus 0,3 par rapport à l'ensemble. Voilà. Alors, donc, dans ces conditions, la vraie question, c'est de savoir quels sont les instruments efficaces pour l'économie française. Et pour l'économie française, ce que peut faire le gouvernement, c'est pas grand-chose, malheureusement. Merci. Ce qu'il peut faire, par contre, c'est créer les conditions pour que le contexte européen s'améliore. Et de ce point de vue-là, ce qui est la raison pour laquelle je pense que le gouvernement ne se débrouille finalement pas si mal qu'on pourrait le penser. Je suis peut-être le dernier en France à le penser, mais bon.
C'est que
ce qu'il fait, c'est un peu ce que... C'est éviter de mettre des bâtons dans les roues à la BCE. Première chose. C'est-à-dire dire, écoutez, je vais faire des efforts, je fais tant ce que je peux, je vais essayer de ne pas complètement casser la conjoncture en France, mais en même temps, je fais des efforts pour bien montrer à la BCE, ce qui fait à la BCE lui permet de ne pas être trop sous la pression allemande. Notez bien que ce que fait le gouvernement, c'est à peu près exactement ce que lui recommande de faire Mario Draghi dans ses différents discours. Et ce n'est pas une mauvaise idée, parce que celui qui a aujourd'hui le plus de possibilités pour améliorer les choses en Europe, c'est la Banque centrale. Il n'a pas dit que ça marche, mais c'est là qu'on a le meilleur espoir. Le deuxième espoir européen, ce serait un plan européen. Là aussi, c'est Mario Draghi qui l'a suggéré, donc je ne suis pas très original. C'est un plan dans lequel on utilise les marges de manœuvre budgétaires de certains pays pour relancer l'activité, relancer les infrastructures, etc. Mais ce, au niveau européen, et en évitant que les pays qui sont déjà très endettés ne fassent trop de dépenses. Là aussi, ça, pour l'obtenir, pour que ce soit mis en place d'une manière pas trop anéantie, il faut que la France fasse le bon élève. Donc le gouvernement français, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le bon élève en espérant qu'il peut comme ça passer la main à ceux qui ont la possibilité de faire quelque chose. C'est sûr que ce n'est pas très satisfaisant, mais d'un autre côté, on n'attend pas du président du Languedoc-Roussillon qui relance l'activité en France. Et on est un peu dans cette situation en Europe.
Alors, Alexandre Delecq, nous dit donc que c'est moins à Paris, peut-être que ça se passe pour la politique économique française, qu'à Francfort avec la BCE ou qu'à Bruxelles avec la politique européenne. Je vais citer un autre économiste, prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, qui donne une interview dans l'hebdomadaire Le 1, qui paraîtra demain, qui est justement consacré, c'est un hasard, à la question qu'on aborde ce soir. Leur dossier de la semaine, c'est « Peut-on encore redresser la France ?» Et dans ce dossier, Joseph Stiglitz dit ceci dans une interview. « La France a conduit une politique d'austérité excessive. » Sous la forte pression exercée par l'Allemagne, la croissance repartira lorsque l'on prendra conscience que la politique encouragée par l'Allemagne est mauvaise. Est-ce que c'est la politique allemande qui doit changer, Cécile Philippe, plutôt que la politique française?
Oui, mais là, je reviens encore une fois à ce problème fondamental que je vois de quel type d'austérité on mène. Parce qu'effectivement, je pense qu'au niveau européen, on n'a pas fait le distinguo. C'est-à-dire qu'on a dit austérité. Revenez comme vous voulez à l'équilibre budgétaire. L'important, c'est l'équilibre budgétaire. Et effectivement, dans nombre de pays, et particulièrement la France, qui, encore une fois, je le répète, est déjà extrêmement imposée. Nous, on fait un classement tous les ans qui permet de comparer les différents pays de l'Union européenne. La France et la Belgique arrivent toujours en dernière position. Et là, pour 2014, on le calcule...
En dernière position par rapport
Par rapport... C'est-à-dire que c'est le salarié... Nous, on le fait sur le salarié moyen. C'est le salarié moyen français et le salarié moyen belge qui ont la charge fiscale et sociale la plus lourde au sein des 28 pays de l'Union européenne. Et c'est comme ça depuis les 5 ans, puisque ça fait 5 ans qu'on fait ce classement.
Et là, peut-être aussi les meilleurs salaires, non ?
Eh bien, alors voilà, vous citez un truc hyper intéressant, c'est qu'en termes de salaire, effectivement, le grand paradoxe de la France, c'est que finalement, les employeurs sont ceux qui versent les salaires les plus élevés. On est autour des 55 000, mais ce qui va dans la poche du français, c'est très, très bas par rapport aux autres pays de l'Union européenne. On est dans les 30 000 et quelques. Donc finalement, là aussi, on est dans un paradoxe qui explique d'ailleurs, vous savez, cette incompréhension entre employeurs et salariés. C'est-à-dire, les employeurs, ils ont l'impression de payer énormément. Et puis les salariés, eux, quand ils voient leur salaire, ils se disent, mais non, moi j'en ai pas eu pour mon argent. Donc, mais ça nous a éloigné finalement de la question.
De la question de l'autonomie de la politique économique française,
oui.
Daniel Lang.
Ouais. Oui, donc je partage pleinement ce qui a été dit par Stiglitz. Vous voulez citer des prix Nobel, Krugman aussi est sur une position assez similaire. Il pense que notre gouvernement est en train de se suicider. Il pense que la France, jusqu'à présent, allait moins mal. La France crée plus d'emplois que les États-Unis en proportion du PIB.
Donc, ce que dit Stiglitz, c'est aussi une manière de dire la France n'a pas vraiment les coudées franches. Elle subit.
La France s'est mise dans une situation où elle a signé des traités qui l'ont privée des trois instruments de politique conjoncturelle que sont la politique monétaire, la politique de change et puis la politique budgétaire. Jusqu'à présent, on avait encore la maîtrise de la politique budgétaire avec les nouveaux traités, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. C'est fini, on doit atteindre un déficit structurel qui est un machin calculé par la commission de 0,5. En gros, on doit être à l'équilibre budgaire. Donc on s'est privé...
Il faut sortir de l'euro
C'est un débat entre économistes atterrés, on n'est pas tous d'accord. C'est pas ce que je vais vous dire aujourd'hui. Moi, personnellement, je pense pas que c'est la meilleure des idées, mais je pense qu'un autre débat, parce que j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure par notre collègue Lillois. Je ne pense pas que la BCE, c'est le meilleur espoir. Je pense que M. Draghi a compris le problème, il a compris, et c'est clair dans les déclarations de la BCE ces derniers mois, et même dans leurs travaux techniques, qu'on va rentrer en déflation et donc on va avoir une récession extrêmement sévère et donc M. Draghi fait ce qu'il peut, mais ce que peut faire M. Draghi principalement, c'est baisser le principal taux d'intérêt directeur de la Banque centrale qui est quasiment à zéro. Donc quand il aura ramené à zéro, on n'aura pas résolu le problème. La politique monétaire peut être un instrument efficace quand on n'est pas dans cette situation absolument dramatique dans laquelle on est. Aujourd'hui, le problème, ça n'est pas l'accès au crédit avec un taux d'intérêt qui est proche de zéro.
Mais ce serait quoi pour vous l'outil le plus efficace? C'est et à quel niveau il faudrait le déclencher?
Clairement, la politique budgétaire. Alors, je partage une partie de ce qu'a dit notre collègue Lillois. L'idéal, si on pouvait, ce serait de pousser les pays qui ont des excédents budgétaires à les des excédents commerciaux, comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, à les utiliser pour relancer leur économie. Mmh. Alors, vous disiez tout à l'heure la dépense publique. En Allemagne, il y a la moitié des ponts qui menacent de s'effondrer. La moitié des ponts qui menacent de s'effondrer. Les Allemands, au lieu de faire des excédents budgétaires et d'en être si fiers, peut-être que ce serait intéressant de remettre un peu d'argent dans les ponts. Peut-être que ce serait intéressant de réfléchir à un problème qu'on oublie souvent en arrière-plan, qui est la transition écologique. Les économies actuelles ne sont pas soutenables. Il faut isoler les logements, il faut construire le ferroutage. Tout ça demande des travaux d'infrastructure, demande des dépenses publiques.
Si la politique budgétaire, la relance budgétaire, ça marcherait, mais la France serait le pays le plus riche du monde. Ça fait quand même 30 ans, même plus, maintenant on va faire notre 40e déficit budgétaire. Mais si ça marchait, cette relance budgétaire, mais on serait un pays sans chômage.
Mais je suis en désaccord complet.
Mais absolument.
En désaccord complet.
C'est écrit Dany Lang dans Marianne il n'y a pas longtemps pour saluer, entre guillemets, l'arrivée d'Emmanuel Macron à Bercy. C'était plutôt, enfin moi j'ai compris comme ça, que en gros depuis 30 ans et depuis le tournant de la rigueur,
oui,
on est dans la rigueur, c'est ça?
Totalement. Totalement. Il y a eu quelques épisodes, quelques parenthèses. Il y a eu la relance de 75-76, la fameuse relance des piscines, Chirac-Fourcade. Il y a eu la parenthèse de 80. 83, et puis il y a eu les 26 milliards du plan Sarkozy-Guénot en 2008.
Mais enfin, non, mais c'est là, on petites... joue avec les mots. Hein.
C'est... Ah,
bah oui, on joue avec les mots, parce qu'à partir du moment où vous avez un déficit chronique pendant 40 ans...
Mais pourquoi est-ce qu'on a un déficit chronique? C'est justement à partir du moment où on arrête de faire de la politique conjoncturelle, de la politique de relance, que ce déficit apparaît. Ça ne vous aura quand même pas échappé, c'est 74.
Ça oui, c'est depuis les années 70, ouais.
Oui, c'est...
Non. Et depuis les années 70, le moment... c'est la crise, c'est la première crise pétrolière, c'est le début, c'est la fin de l'étalon or. Il y a énormément de choses qui se passent à ce moment-là. On passe d'une monnaie qui était basée sur l'or à une monnaie complètement institutionnalisée qu'effectivement on peut créer à volonté, et c'est le début des grands cycles économiques. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je pense que la politique monétaire de la BCE n'est absolument pas une solution aujourd'hui. D'ailleurs, on constate qu'elle ne fonctionne plus parce que finalement, même en actionnant la pompe des liquidités, finalement, le crédit ne se place pas parce que justement, les anticipations à la fois des entrepreneurs et des ménages, elles sont complètement elles sont négatives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appétence pour le développement de nouveaux projets, etc. Parce qu'effectivement, en France, on ne voit pas d'avenir à des projets rentables, fructueux, etc. Donc évidemment, ça ne peut pas fonctionner.
Peut-être une dernière réaction d'Alexandre Delegue.
Ah, moi, je trouve que c'est une grande tradition française que de penser que la politique monétaire, ça ne sert pas à grand-chose. Je constate qu'en Grande-Bretagne, ils ont fait beaucoup plus d'austérité budgétaire qu'en Europe, mais ils ont eu une politique monétaire très expansionniste, et ben maintenant, ils ne s'en portent pas si mal.
Jusqu'à quand ? Moi, j'attends de voir.
Sur la Grande-Bretagne,
alors là, ça va exploser bientôt.
Sur la Grande-Bretagne, regardez les chiffres de prêt. Sur la Grande-Bretagne, l'embellie s'explique par le marché immobilier, et puis c'est absolument pas soutenable parce que la construction s'effondre. Et puis, elle s'explique par le fait qu'il n'y ait pas eu d'austérité dans le domaine de la santé. C'est les deux secteurs en boom qui compensent tout le reste.
Alors, c'est un nouveau cycle économique.
C'est tout à fait possible.
On laisse terminer Alexandre Delegue.
Il n'empêche que, globalement, on ne faut pas sous-estimer l'importance de la politique monétaire. Peut-être qu'effectivement, elle n'aura pas beaucoup d'efficacité. Mais je trouve que si on veut vraiment faire une différence, là, on est vraiment sur quelque chose dans lequel... L'Europe, pour des raisons qui sont parfois compréhensibles, hein, parce qu'une zone monétaire avec un mélange de pays, c'est compliqué, n'a pas pu faire la politique monétaire qui s'est faite ailleurs. Donc pour ça que moi, je pense que c'est quelque chose qui a plus d'importance qu'on ne le croit et qu'on ne veut le dire en France. Après, pour le reste... Je pense que malheureusement, quand on prend la longue période, et je vous avais dit précédemment que le débat sur l'austérité était le prétexte pour un débat sur le poids de l'État dans l'économie, j'ai un peu l'impression que cette émission m'a donné raison si j'écoute ce que m'ont dit mes deux interlocuteurs, qui étaient très intéressants, mais qui reste un débat sur, depuis 50 ans, que doit être le poids de l'État dans l'économie en France, et quel impact est-ce que ça a. C'est un débat très important, très intéressant, mais qui est un débat distinct de... ce qu'on doit faire dans un contexte dans lequel on a rencontré une crise.
Non.
Et la question de l'austérité, c'est à quel rythme, de quelle façon, est-ce qu'on peut, à poids de l'État dans l'économie déterminé, sortir de cette situation. Et il n'y a pas de solution miracle. Je sais qu'il y a beaucoup de miracles. Je sais que chez les libéraux, on rêve à la courbe de l'affaire et au fait qu'on baisse les impôts et qu'à la fin, on est plus riche qu'avant.
Non, on rêve
que
pas
de
ça.
L'autre côté,
ça n'existe pas empiriquement.
On s'imagine que la dépense publique a tellement de pouvoir qu'il suffit de l'augmenter pour générer suffisamment. Je pense que malheureusement, on est un peu entre ces deux réalités-là et qu'on ne parle pas assez de ce débat qui est différent, je le répète, du débat de quel doit être le vrai poids de l'État dans l'économie.
Je pense que c'est complètement erroné de vouloir déconnecter le fonctionnement d'une économie du fonctionnement de ses institutions. Et les institutions privées comme les institutions publiques sont cruciales. Et si on fait l'abstraction de ça, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas comprendre ce qui se passe.
Vous venez peut-être de nous donner une idée de problématique pour une prochaine émission. Je vous remercie en tout cas à tous les trois d'avoir joué le jeu du débat et de la discussion. Je vous signale que si vous aimez les émissions que nous consacrons à l'économie, un peu de teasing, jeudi prochain, on essaiera de s'interroger et de comprendre pourquoi les économistes français sont si brillants, puisque d'après le FMI, sur les 25 les plus prometteurs, il y en a 7 qui sont français, et pourquoi l'économie française va si mal. Où se fait ou ne se fait pas le lien entre eux. Voilà, ce sera jeudi prochain, pas après-demain, mais celui d'après. Voilà. S'agissant de notre émission de demain, l'Angleterre peut-elle vivre seule? C'est la question que nous poserons à la faveur du référendum en Écosse. Je ne vous ai pas remercié, je vais le faire tout de suite, Cécile Philippe, Dany Lang et Alexandre Delegue. Vos commentaires sur notre site, comme chaque jour, franceculture.fr, la page du Gramout. C'est un petit peu dans le désordre ce soir. On essaiera de remettre ça en ordre pour le podcast, pourquoi pas. Et tout de suite, on retrouve le rendez-vous avec Laurent Goumard. Bonsoir.